Mais on utilise toujours des sables. Alors, c'est dommage parce que je voulais vous montrer les étapes un petit peu de moulage telles que je le pratique, hein, puisque moi je le pratique encore manuellement, tel que c'était pratiqué au 16e, au 17e, au 18e. Et chez moi, il n'y a pas de machine automatique, ça ne m'intéresse pas. C'est pas mon truc. Je préfère travailler sur des valeurs traditionnelles et sûres, et puis je n'ai pas envie de faire de la production pour faire de la production, ça ne m'intéresse pas. Donc, si vous voulez le système de moulage, vous prenez par exemple une boîte comme ça, vous voulez l'obtenir en sable. Bon, on va prendre, vous voyez, on a tout ce qu'il faut, là, regardez. Hop, on la met sur un panneau. Autour, on va mettre un cadre métallique d'une hauteur suffisante, beaucoup plus épais que la pièce en elle-même pour pouvoir prendre cette empreinte complètement dans le sable. Sur ce modèle, on va mettre un isolant, soit un sable blanc très sec, soit de la plomblagine, qui est du graphite, tout simplement, qu'on va saupoudrer pour éviter que l'humidité du sable ne colle sur la pièce. Une fois qu'on va avoir mis cet isolant, on va tamiser du sable dessus, un sable vert, alors silice, argile et eau, c'est un sable complètement naturel, c'est ce que j'utilise moi tous les jours depuis 43 ans. On va tamiser donc ce sable pour avoir une partie très très fine sur le modèle, pour avoir un aspect de pièce net, propre. Plus votre sable va être gros au contact de la pièce, plus votre pièce va avoir des défauts. Donc on tamise jusqu'à couvrir toute la pièce, on remplit de sable de nouveau, là sans le tamiser cette fois. Et après, avec ce qu'on appelle un fouloir, on va serrer les profondeurs. Une fois qu'on aura serré les profondeurs tout autour de la pièce, on va remettre du sable, cette fois au-dessus des bords du châssis. On va finir le serrage avec une pilette, comme une massette, si vous voulez. On va régler pour retirer la surépaisseur de sable, retourner l'ensemble, ce qui fait qu'on va se retrouver avec notre petite boîte à l'envers, avec le panneau au-dessus. On va le retirer et là, on va avoir dans le châssis notre pièce avec notre modèle. On va mettre un deuxième châssis dessus. On va mettre des tubes pour faire des trous dans la partie de dessus. Et on va recommencer la même opération. Une fois que tout sera serré, on va retirer les tubes, retirer la partie de dessus qu'on va mettre de côté. On va dans la partie de dessous tailler les entrées, les attaques de coulée, c'est-à-dire l'endroit qui correspond au trou. On a fait dans la partie de dessus pour alimenter en fonte. On va ébranler le modèle, le retirer. On va remettre la partie de dessus sur la partie de dessous. Et là, votre moule est terminé, il est prêt à couler. C'est-à-dire qu'on aura pris exactement cette empreinte-là dans le sable, sauf qu'elle sera en vide. Tout simplement. Le sable naturel, le silico-argileux, la quantité d'argile et le taux d'humidité fait qu'en serrant, il s'agglomère suffisamment pour ne pas s'écrouler quand vous le manipulez et garder la forme intacte quand vous coulez le métal. Parce que sur ce sable, la fonte roule. Donc elle n'abîme pas, mais on ne coule jamais sur la pièce, on coule toujours à côté. Pour limiter justement toutes les petites traces ou les impuretés qu'on pourrait avoir. Et une fois que ça c'est fait, à ce moment-là, il va falloir laisser refroidir cette pièce. Alors, le temps de refroidissement, il est différent selon les pièces. Vous avez des pièces qui vont mettre en une heure, deux heures, vont être froides, on va pouvoir les sortir du sable. Vous avez des pièces qu'on va laisser 4 jours, vous avez des pièces qu'on va laisser 48 heures. Plus elles sont fines, souvent, plus on les laisse longtemps, pour éviter qu'elles cassent au retrait du métal, parce que tout métal chauffé se dilate, mais quand il refroidit, il se rétracte. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, le bronze, c'était plus facile, parce qu'eux, ils n'ont pas ce problème de casse. Alors qu'en fonte, nous, on l'a constamment, surtout en lamellaire. Et une fois que ça va être froid, eh ben, il faudra retirer tous les endroits, couper les endroits par lesquels le métal est arrivé, et puis après décaper, brosser, poncer la pièce, la nettoyer, la finir, la parachever, et après, si comme c'était le cas dans des éléments de balcon, par exemple, remonter ces éléments en panneaux pour faire les balcons finis. On passe beaucoup plus de temps avant que pendant la coulée. Quand vous avez une pièce de restauration qu'on vous amène dans son jus, c'est-à-dire avec 30 couches de peinture, déjà, il faut tout décaper. Une fois que tout est décapé, moi, quand je peux passer la main comme ça dessus et que c'est parfaitement lisse, je travaille avec, sinon je travaille pas. Je vais travailler pour rien. Je la laisse de côté. Tant qu'elle n'est pas nickel, j'y touche pas. Une fois que c'est nickel, on prend l'empreinte en sable. Des fois, pour faire un élément de 1 mètre de haut par 80 cm de large, vous avez 6 heures de moulage. Parce que toutes les pièces sont en demi-partie, en double face. Donc, il faut faire ce qu'on appelle le plan de joint. C'est-à-dire que quand vous avez serré votre pièce dans le sable, il y a du sable partout. Par contre, il faut redescendre toute l'épaisseur de pièce de sable jusqu'à mi-pièce, sur toute la surface du moule. Alors, quand vous avez un moule, comme quand j'ai fait les balcons de la gare de La Rochelle, qui font 2,20 m de long par 60 cm de haut, s'il fait des moules de 3 m par 1 m, bah, vous passez 7 heures à vous taper un plan de joint. Mais il n'y a pas d'autre solution, puisque vous repartez d'une pièce originale. Là, on passe du temps. La coulée, c'est très rapide, 8 secondes pour 8 mm d'épaisseur. C'est 1 seconde par millimètre d'épaisseur, quelle que soit la taille de la pièce. Et puis après vient le fameux parachèvement, titre très pompeux maintenant en fonderie, qui désigne ce que j'appelle moi le zip-zip, c'est-à-dire les barbages. Alors couper les coulées, brosser, poncer, meuler, fraiser, etc. etc., etc. Voilà. Et seulement après, bah, là, on a une pièce qu'on va pouvoir peindre à l'anti-rouille, remonter, repeindre et livrer chez le client. On aura passé 2 mois à mouler, on aura passé 2 mois à faire les finitions et on aura passé 5 jours à couler. Voilà. Ça pour un balcon qui fait 3 mètres de long, comme certains que j'ai fait il y a quelques temps là, pour la ville d'Arcachon. Donc c'est énormément de temps avant, énormément de temps après, mais on travaille toujours avec des matières premières naturelles. Toujours. Enfin, c'est mon principe. Pardon. Alors pour en revenir à la fusion avec le Cubilo, la photo que je vous ai montrée tout à l'heure, je vous ai dit qu'il était en 3 parties. Il y avait la cheminée avec le gueulard, la zone de fusion avec la boîte avant et le creuset. Un Cubilo, quand on démarre une fusion, la première chose déjà, c'est un tuyau hein, tout simple. On le garnit de réfractaires à l'intérieur, selon une certaine épaisseur, selon la taille du Cubilo. Ça varie de 8 cm à 25 cm. On le fait bien sécher. Une fois que c'est sec, on va fermer la sole, c'est-à-dire le fond, avec du réfractaire, une tôle et du réfractaire par-dessus. Et dedans, on va mettre du coq de métallurgie. On va l'allumer avec un brûleur à propane. Et une fois que ce coq sera incandescent sur à peu près 50-60 cm de haut, on va arrêter le gaz et on va le laisser monter par tirage naturel. 2 heures après, vous pouvez démarrer la fusion. Quelle que soit la taille du Cubilo, qu'il soit gros, qu'il soit petit, 2 heures. Il faut 2 heures pour que votre feu par tirage naturel soit à bonne température. À ce moment-là, on va boucher la porte d'allumage avec du réfractaire. On va monter le coq jusqu'à la zone de fusion. Et en strate, on va charger de la fonte, du coq, de la castine. La castine, c'est un fondant. Alors dans le cas des Cubilo que j'utilise, moi, qui sont à vent froid, mais à revêtement acide, c'est-à-dire silice argile, j'utilise de la chaux. On pourrait utiliser de la craie, mais en Vendée, il n'y en a pas. Donc on utilise de la chaux, c'est plus simple. Une fois qu'on l'a rempli jusqu'en haut par strat, à ce moment-là, on met le ventilateur en route. On va souffler de l'air qui va rentrer, circuler autour de la boîte avant, rentrer par les 3 tuyères au contact du foyer de coque et faire monter la température en zone de fusion à plus de 1500 degrés. Au bout de 15 minutes, on a déjà de la fonte liquide. C'est-à-dire qu'au bout de 15 minutes, à partir du moment où on a soufflé 15 minutes, on a déjà de la fonte liquide dans le creuset. Elle a déjà fondu, elle est descendue au travers du coq, elle s'est accumulée au fond du Cubilo. Plus elle monte, plus le laitier monte, puisqu'il flotte au-dessus, puisqu'il est plus léger, plus le foyer monte. Et c'est là que ça se complique. Parce qu'il ne faut pas monter trop. Il faut toujours garder une certaine proportion. Donc on est obligé toujours, toujours, toujours de faire très attention à ce qu'on appelle la charge de combustible. Et à ce moment-là, on alimente en continu. Et plus vous alimentez, plus il va fondre, et plus il va fondre, et plus vous aurez de métal liquide, et plus vous pourrez couler de pièces. Il marche tout seul, ça fonctionne très bien. C'est le plus vieux système, mais c'est le plus pratique, le plus rationnel et le plus économique. Donc une fois que cette fonte liquide s'est accumulée au fond, à ce moment-là, on vient la récupérer avec des poches de coulée. Souvent, des grosses poches, on les manipule avec des palans électriques ou des monorails. Moi, il m'arrive de couler des pièces jusqu'à 150 kg en une seule fois. Donc on va recueillir ces 150 kg de fonte liquide à 1350 degrés sous le Cubilo. Une fois que la poche est pleine, ben on rebouche le trou par lequel s'est évacuée la fonte. On emmène sa poche de coulée, on va couler. On revient. Entre-temps, lui, il a continué à fonctionner, donc il vous en a refondu autant. Donc vous pouvez recommencer, remettre la poche, retirer une poche, et ainsi de suite. Jusqu'au moment où on dit, bon, on sait qu'il nous reste plus que quelques moules à couler. À ce moment-là, on arrête de l'alimenter en métal, et puis on continue à vider tranquillement ce qui reste dedans. On coule la fin des moules et après on fait ressauter le fond qu'on a bouché, la sole, pour le vider intégralement, pour pouvoir le repréparer pour les prochaines coulées. Ça, c'est le principe traditionnel de fonderie. Maintenant, dans les fonderies industrielles, c'est des fours électriques. On charge à l'électro-aimant, on appuie sur le bouton, ça marche tout seul. Mais c'est pas la même chose. Voilà. Alors vous voyez, la fonderie d'art aujourd'hui, ben, il n'y a plus énormément de fondeurs d'art, on est très peu, surtout en fonte. Hein. Pensez bien que je suis fondeur de fonte, hein. Je ne suis pas fondeur de bronze. J'en coule. Je fais mes alliages de bronze, je fais mes alliages de laiton, je fais mes alliages d'étain, c'est pas un problème. Mais mon métier, c'est la fonte. Véritablement la fonte. Donc en fondeur de fonte, on est très très peu, et je suis le seul encore en Europe qui travaille avec des matières premières naturelles. Plus aucun fondeur n'utilise de matières premières naturelles. Le sable, c'est terminé. Les isolants, c'est terminé. Les isolants naturels, maintenant, c'est des produits chimiques qu'on pulvérise sur les plaques modèles. Et tout est à l'avenant. Voilà. Donc moi, c'est un choix. Je m'y tiens, mais c'est pas d'aujourd'hui, puisque c'est troisième génération de fondeurs. Donc, vous voyez, on a toujours travaillé avec des matières premières naturelles et ça continuera tant que je pourrai. Après, ma foi, les autres, font comme moi, ils font ce qu'ils pourront. Je vous remercie. Alors ça, vous voyez, c'est les pièces, je m'excuse, c'est les pièces qu'on les reçoit directement par souvent les architectes des bâtiments de France. C'est-à-dire que vous avez la pièce en l'état, dans son jus, à droite, et à gauche, une fois qu'elle est décapée, pour qu'on puisse la mouler. Vous voyez ? Alors, tout est fraisé, tout est poncé, tout est bouché. Elle arrive comme ça. Voilà, elle arrive dégueulasse. 30 couches de peinture minimum, comme à chaque fois. Donc, pour commencer, il faut décaper toute la peinture. Donc, on retire toute la peinture. Une fois qu'on a retiré toute la peinture, on ponce tout. Voilà, alors là, on est en train sur la photo que vous voyez, on est en train de faire du moulage. C'est-à-dire qu'on a déjà serré les pièces dans le sable, on a retourné le moule, et je suis en train de faire ce qu'on appelle faire le plan de joint, c'est-à-dire redescendre le sable à mi-hauteur de la pièce, pour pouvoir prendre l'empreinte de l'autre face. Alors, sur la photo que vous avez là, j'ai placé un deuxième châssis sur le premier que vous avez vu sur la photo précédente, avec les deux tubes qui vont servir à verser le métal dans le moule quand l'empreinte sera prise complètement. Donc, vous voyez, après on retamise du sable, juste pour couvrir la pièce pour avoir un bel aspect. On serre les profondeurs avec un fouloir, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Vous voyez ? Donc là on serre vraiment les creux du moule en profondeur. On rajoute du sable au-dessus de la hauteur du châssis pour que quand on le serre et qu'il se comprime, il ne descende pas en dessous du châssis, sinon le moule s'écoulerait quand on le lèverait. Et là, on finit de serrer le sable qu'on a rajouté en surépaisseur. Régulièrement, avec une pilette, il faut qu'on ait un serrage régulier, pas trop fort, pas trop léger, mais bien régulier. Donc c'est un coup de main aussi à prendre. Et là, vous avez la partie du dessus, on a retiré les tubes, on a relevé la partie du dessus, et vous avez dans le sable l'empreinte de l'arrière de la pièce. Et voilà, là, les deux parties sont reposées l'une sur l'autre, et le moule est prêt à être coulé. Donc on va verser la fonte par les trous que vous voyez dans la partie supérieure, et ça va alimenter le creux, la forme de la pièce qui se trouve en vide dans le sable à l'intérieur entre les deux. Vous avez la moitié de la pièce dans la partie supérieure, et la moitié de la pièce dans la partie inférieure. Et là, vous voyez, on est en train de couler un balcon. C'est justement quand on coulait les balcons de la gare de la Rochelle, là, qui faisait 2,20 m de long. Vous voyez, on coule à deux poches. Donc vous avez une grosse poche de 100 kg et une poche d'à peu près 30 kg. Et on coule à 1350 degrés. Alors ça, vous voyez, c'est justement c'est un balcon qui va faire au final 3,50 m de long, ça. Ce sont tous des éléments en fonte, des panneaux qui sont montés dans un cadre en fer carré de 20-20. Donc chaque panneau a été coulé séparément et après tout est remonté dans du fer carré en 20-20 pour avoir une longueur de façade de 3,50 m sur 1,1 m de haut. Et en final, il y aura deux retours de 80 cm de chaque côté. Et ça, c'est parti sur Arcachon. C'est une reproduction, oui, oui. Les signatures, c'est rare. Des dates, quelquefois. Des dates, quelquefois, oui. 1854, celui-là.
J'ai retrouvé
Mais là, elles n'étaient pas signées, elles étaient juste datées. Juste datées. Ouais.
C'est visible à l'œil nu, parce qu'en général, ça peut faire d'être.
Ouais.
Il faut savoir qu'à l'entre du 20e siècle, entre les grosses fonderies les plus grosses volumes, les plus petites fonderies artisanales, c'est des fonderies de bronze d'ameublement.
Ouais. Mais de bronze d'ameublement, oui. Oh, il doit y en rester des fonderies à l'heure actuelle, 300, 100. Fondeur de l'Ouest, on est 90 fonderies. Sur tout le Grand Ouest, hein. C'est-à-dire du Nord jusqu'à Toulouse. On est 90. En France, on doit être à peu près encore 150-200 des fondeurs. Industriels ou non. Enfin, ils sont pratiquement tous industriels. Une hécatombe phénoménale.